Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 23 et notre étude précédente concernant la toute suffisante de Dieu, elle continue donc avec deux questions. La première, c'est Romains chapitre 8, verset 11. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comprenons par là qu'aucune opposition ne peut finalement nous écraser. Pour que nous le comprenions bien, l'apôtre Paul nous rappelle la toute suffisance de Dieu, notre souverain protecteur. Ceci est le caractère décisif de l'engagement qu'il a contracté envers nous dans le cadre de l'Alliance. Si Dieu est pour nous, et là on pourrait se demander, de quel Dieu s'agit-il? Voyez-vous, l'apôtre Paul parle ici du Dieu de la Sainte Bible et de l'Évangile, de l'éternel Jéhovah, du Dieu de l'univers, du Dieu miséricordieux et compatissant, qui est lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Exode, chapitre 34, verset 6. Voyez-vous le Dieu que le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous a fait connaître. Il nous l'a fait connaître. Saint Jean, chapitre 1, verset 18. C'est le Dieu qui a révélé sa souveraineté dans les termes suivants. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Oui, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis et mes arrêts subsisteront et j'exaucerai toute ma volonté. Ésaïe 46, verset 9. Donc, c'est le Dieu qui a manifesté sa souveraineté en faisant sortir Abraham de la ville d'Ur ou d'Ur. Israël, il l'a fait sortir d'Égypte et plus tard de Babylone où il était retenu captif. Et Jésus-Christ, il l'a sorti de sa tombe et qui manifeste encore aujourd'hui la même souveraineté chaque fois qu'il fait naître à la vie spirituelle un homme ou une femme qui était mort dans ses péchés. Oui, c'est ce Dieu, le Dieu de l'Épître aux Romains, le Dieu dont la colère se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice de la part des hommes. Romains 1, chapitre 18. Mais qui pourtant prouve tout son amour envers nous, nous qui pourtant le méritons souvent pas, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Oui, chers amis, le Dieu qui appelle, qui justifie, qui glorifie tous ceux qu'il a de toute éternité, il les a sortis du marasme de l'amour éternel. Et c'est ce Dieu-là qui est à l'image de son Fils, selon Romains chapitre 8, verset 29. C'est le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et éternel, dont la puissance, la sagesse et la bonté sont infinies. C'est le Créateur et le Préservateur de toutes choses, visibles et invisibles. C'est donc ce Dieu que nous avons à étudier. Si Dieu, ce merveilleux Dieu, est pour nous, ce merveilleux Père, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ces mots « pour nous » renvoient à l'engagement de Dieu dans son alliance. Nous l'avons vu, la grâce a pour but de créer une relation d'amour entre Dieu et nous qui croyons. C'est d'ailleurs en vue de cette relation que l'homme a d'abord été créé, et le lien qui nous unit à Dieu est celui de l'alliance, alliance que Dieu impose unilatéralement et qu'il assortit de promesses et de commandements. C'est ce qu'il fait lorsque il dit à Abraham « Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Je serai leur Dieu. Toi, tu garderas mon alliance. Oui, toi et tes descendants après toi. » Genèse 17, versets 1 à 9. Les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Galates montrent bien que tous ceux qui mettent leur foi en Christ, juifs ou païens, sont incorporés en Christ à la postérité d'Abraham pour former le peuple de l'Alliance. L'Alliance, une fois établie, subsiste, car Dieu en assure la pérennité. Donc, en tant que père, en tant qu'époux et roi, car ce sont là les comparaisons humaines qui servent à nous aider à comprendre notre nouvelle relation avec Dieu dans l'Alliance. Dieu est fidèle à sa promesse et à son dessein. Sa promesse, celle pour être vraiment notre Dieu, c'est une promesse dont la portée est très vaste et qui, une fois analysée, elle s'avère l'une des plus précieuses que Dieu nous a faites, et cela en vue de répondre à nos besoins, à tous nos besoins. Cette relation établie par l'Alliance, c'est le fondement de toute la religion révélée dans la Sainte Bible. Lorsque ceux qui adorent Dieu disent « mon Dieu » et lorsque Dieu dit « mon peuple », c'est le langage de l'Alliance que l'on entend. Quant à l'affirmation que Dieu est pour nous, elle fait elle aussi partie du langage de l'Alliance. Elle proclame la promesse que Dieu a faite de nous soutenir et de nous protéger lorsque les hommes et les choses se feront menaçants, de pourvoir à nos besoins, et cela tout au long de notre pèlerinage terrestre, et de nous permettre enfin de goûter une joie complète en sa présence. Tout cela en dépit des obstacles nombreux qui semblent se dresser sur la route qui mène à ce but final. Alors cette simple affirmation « Dieu est pour nous » est en fait une des plus importantes et une des plus merveilleuses déclarations de la Sainte Bible. Qu'est-ce que cela signifie pour un homme que de pouvoir dire « Dieu est pour moi » ? Le psaume 56 répond à la question. Au verset 10, le psalmiste affirme « Dieu est pour moi » et ce verset est le pivot de tout le psaume. Le psalmiste est acculé de toutes parts. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent et ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Psaume 56, les versets 3 et 6 et le verset 7. Mais le fait de savoir que Dieu est à ses côtés, à nos côtés, donne à sa prière un accent de triomphe. Cette connaissance lui donne d'abord elle lui donne l'assurance que Dieu ne l'a vraiment pas oublié et que Dieu ne se désintéresse pas de ses difficultés. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre, verset 9? Elle lui donne ensuite l'assurance que mes ennemis reculent, et cela au jour où je crie, verset 10. Et enfin, de savoir que Dieu est à ses côtés lui permet d'avoir donc confiance. Si Dieu est à notre côté, nous pouvons avoir une absolue confiance et ainsi de faire taire toutes nos craintes. Quand je suis dans la crainte, eh bien en toi, je me confie. Je me confie en mon Dieu. Je ne crains plus rien. Que peuvent me faire des hommes? Les versets 4 et 5. Quoi que les hommes puissent lui faire de l'extérieur, si l'on peut dire ainsi, ils ne peuvent pas vraiment l'atteindre, car sa véritable vie est sa vie intérieure, la vie de communion qu'il mène avec un Dieu qui l'aime, et ce Dieu qui l'aime protégera cette vie-là, quoi qu'il arrive. Alléluia. Par la même occasion, le psaume 56 aide à répondre à une autre question, qui sont ceux que l'apôtre désigne lorsqu'il dit « Dieu est pour nous ». Le psalmiste nous montre trois qualités qui permettent de reconnaître le véritable croyant. Premièrement, le psalmiste est un homme de louange, et l'objet de sa louange est la sainte parole de Dieu, les versets 4 et 10. C'est-à-dire qu'il est attentif à la révélation de Dieu, qu'il adore le Dieu qui s'y révèle et qu'il l'adore comme la révélation le veut et non comme le voudrait son imagination débridée. Deuxièmement, c'est un homme de prière, et ce qui motive sa prière, c'est son désir d'être en communion avec Dieu. Seul but et seule raison, c'est la raison d'être de sa vie, afin que je marche devant Dieu, est-il dit au verset 14. Troisièmement, c'est un homme qui s'acquitte de ses vœux de fidélité et de reconnaissance, selon le verset 13. L'homme qui glorifie Dieu qui le prie, qui lui est reconnaissant et fidèle, présente tous les traits caractéristiques de l'enfant de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi saint Paul a-t-il posé cette question? Pour faire échec à la peur que le chrétien craintif ressent face aux forces qu'il sent qu'ils sont massées tout autour de lui, ces forces qui peuvent s'incarner en tel homme, en telle femme, ou même en tel groupe, alors l'apôtre Paul sait qu'il existe toujours une ou plusieurs personnes dont la moquerie, le mécontentement ou l'hostilité paraît aux chrétiens impossible à affronter. Et saint Paul, il sait que tôt ou tard, tous les chrétiens seront confrontés à ce genre de problème, même ceux qui, avant leur conversion, ne tenaient aucun compte de ce que les autres pouvaient bien dire ou penser d'eux. Alors, il sait, bien sûr, à quel point cette sorte de crainte peut être paralysante et même démoralisante. Mais il sait aussi comment y faire face. Ce que saint Paul dit en fait, c'est « Allons et réfléchissons. Dieu est vraiment pour nous. Vous savez ce qu'il représente. Alors maintenant, oui maintenant, faites la liste de tous ceux qui sont contre vous et voyez un peu de quel côté penche la balance. » Il faut noter que la traduction de certaines versions, comme dit Albrecht, Bible, oder dit Mülheimer, qui peut être contre nous, n'est pas toujours 100% exacte et ne rend pas compte de la véritable intention de l'apôtre. Or, ce que l'apôtre Paul nous demande, en fait, c'est, écoutez bien, c'est de faire un recensement réaliste de toutes les oppositions humaines ou démoniaques, je dis bien, et même démoniaques, que nous rencontrons, et non de les nier dans une exaltation mensongère. Non, ce sont des réalités. L'opposition est une réalité, et le chrétien qui n'est conscient d'aucune opposition ferait bien de prendre garde à lui, car il est en danger. Alors un tel manque de réalisme n'est pas à mettre au nombre des conditions requises pour être disciple de Christ, mais bien plutôt au nombre des défauts à éviter. Avez-vous peur d'eux? Nous demande Paul. Vous ne devriez pas plus que Moïse n'avait à avoir peur de Pharaon après que Dieu lui ait dit « Je serai avec toi ». Exode, chapitre 3, verset 12. Saint Paul demande à ses lecteurs de se livrer au même calcul que celui auquel s'était livré Ézéchias. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant ce fameux roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car, attention, avec nous, il y a beaucoup plus qu'avec lui. Avec nous, il y a l'Éternel. Oui, il y a notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. » 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. « Emparez-vous donc de cette parole, nous dit saint Paul, et accrochez-vous à elle. Laissez-la agir en vous en ce moment même, alors que vous êtes aux prises avec des difficultés, et vous verrez que le fait de savoir que Dieu, votre protecteur, souverain, s'est vraiment irrévocablement engagé envers vous dans l'alliance de la grâce, fera fuir toutes vos craintes et vous donnera de nouvelles forces pour le combat. Gloire à Dieu, nous ne sommes pas tout seuls. Deuxièmement, lui qui n'a point épargné son propre fils, Dieu n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Notez Romains, chapitre 8, verset 32. Comprenons par là qu'en définitif, aucun bien ne nous sera refusé. Et pour que nous le comprenions bien, saint Paul nous rappelle la toute suffisance de Dieu, notre souverain bienfaiteur, et le caractère décisif de l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie pour nous. Nous aimerions au préalable faire trois remarques afin de souligner la force de l'argumentation de notre ami Paul. Alors, arrêtons-nous d'abord à ce que saint Paul veut nous faire comprendre quant au prix qu'a coûté, que vraiment cela a coûté pour notre rédemption. Il n'a pas épargné, est-il dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous racheter, pour notre rédemption. Et en nous sauvant, Dieu a fait tout ce qui lui était possible de faire. Qu'aurait-il pu donner de plus pour nous? Je vous le demande. Qu'aurait-il eu de plus à nous donner? Nous ne pouvons pas comprendre ce que le calvaire a coûté au Père, pas plus que nous ne pouvons comprendre ce que Jésus-Christ a souffert lorsqu'il a subi le châtiment terrible que méritaient tous nos péchés. Oui, mais nous pouvons dire donc une chose, si cet amour se mesure à ce qu'il donne, alors il n'y a jamais eu d'amour comparable à celui que Dieu, notre Dieu merveilleux, notre Père céleste, a manifesté au calvaire envers les pécheurs que nous sommes, et aucun des dons que dans son amour il vous fera à l'avenir ne lui coûtera autant, oui, tellement, que le don qu'il nous a fait à la croix. Et ça, c'était vraiment, on peut dire, un prix très, très élevé. Ainsi donc, si Dieu a déjà prouvé son amour merveilleux envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains, chapitre 5, verset 8. Il est tout à fait concevable, pour ne pas dire davantage, qu'il aille jusqu'à nous donner toutes choses avec lui, avec Christ. Donc, la plupart des chrétiens craignent, ils craignent que Dieu n'ait plus rien d'autre à leur donner, à nous donner, que ce qu'ils ont déjà reçu. Mais, voyez-vous, il suffit de regarder au calvaire pour que cette crainte puisse entièrement se dissiper. Mais ce n'est pas tout. Non, non. Arrêtons-nous maintenant à ce que saint Paul veut nous faire comprendre quant à l'efficacité de notre rédemption. Dieu, dit-il, a livré son Fils pour nous tous. Et ça, c'est une réalité. Ce fait est en lui-même une garantie que toutes choses nous seront données parce que toutes choses nous sont acquises, et cela par la mort de Christ. Nous venons de dire que la grandeur du don que Dieu nous a fait à la croix rendait, si l'on ose dire ainsi, naturel et probable l'octroi de dons ultérieurs. Mais ce qu'il nous faut souligner ici, c'est que pour que s'accomplisse parfaitement le plan de salut de Dieu, eh bien, ces dons ultérieurs sont nécessaires. Ils deviennent donc, par conséquent, certains. Et dans ce domaine, l'enseignement du Nouveau Testament au sujet de la croix a des implications beaucoup plus profondes qu'on ne se l'imagine généralement. Oui, nul ne contestera, et moi le premier, que les auteurs apostoliques aient présenté la mort de Christ comme le fondement et la garantie du pardon que Dieu nous offre. Nul ne contestera non plus que c'est la repentance et la foi qui donnent aux hommes accès à ce pardon. Mais cela signifie-t-il pour autant que tout comme un fusil chargé ne crache pas automatiquement le feu, mais qu'il est nécessaire d'appuyer sur la gâchette pour faire partir le coup? La mort de Christ, elle n'a fait que créer une possibilité de salut que seule la foi de l'homme peut transformer en réalité. Alors si tel était le cas, ce ne serait donc pas à proprement parler la mort de Christ qui nous sauverait, pas plus que le fait de charger un fusil ne fait partir le coup, mais nous nous sauverions nous-mêmes grâce simplement à notre foi. D'ailleurs, la mort de Christ aurait pu ne sauver absolument personne, puisqu'il y aurait pu se faire tout simplement que personne ne croit en l'Évangile. Mais voyez-vous, le Nouveau Testament ne voit pas du tout les choses sous cet angle-là. Le Nouveau Testament affirme que la mort de Christ, elle nous a réellement sauvés. C'est une réalité. Elle nous a sauvés, nous tous, c'est-à-dire tous ceux que Dieu a appelé et justifié et qu'il glorifiera le moment venu. Car notre foi, qui d'un point de vue humain est le moyen d'accès au salut, fait du point de vue divin partie intégrante de ce salut. La foi est donc un don de Dieu, exactement au même titre que le pardon et la paix dont elle se saisit. Psychologiquement, la foi est un acte personnel. Mais théologiquement, la vérité est différente. La foi est le résultat de l'œuvre de Dieu en nous, si bien que notre foi et notre nouvelle relation avec Dieu en tant que croyant d'une part, et tous les dons divins dont nous jouissons dans le cadre de cette nouvelle relation d'autre part, nous ont tous été acquis par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Car la croix, elle n'a pas été un événement isolé, elle a été bien au contraire l'élément capital du plan que Dieu avait établi de toute éternité pour nous sauver. Et c'est la croix qui a assuré et garanti d'abord la vocation, c'est-à-dire le fait de venir à la foi grâce à l'action de l'Évangile sur la pensée et à celle de l'Esprit sur le cœur, puis la justification et enfin la glorification de tous ceux pour qui Christ est spécialement et personnellement mort. Il faudrait redire cela, et je vous conseille de réécouter un CD ou une étude de ce genre, car ça c'est pas du petit lait. Je dis donc que la croix, elle n'a pas été un événement isolé, car elle a été bien au contraire, elle a été l'élément capital du plan que Dieu avait établi de toute éternité pour nous sauver. Et c'est la croix qui a assuré et qui a garanti d'abord la vocation, c'est-à-dire le fait de venir à la foi grâce à l'action de l'Évangile sur la pensée et à celle de l'Esprit sur le cœur. Voyez-vous, d'abord la pensée, ensuite celle de l'esprit sur notre cœur et âme, puis la justification et enfin la glorification de tous ceux pour qui Christ est spécialement et personnellement mort. Nous comprenons donc maintenant pourquoi le grec dit littéralement, expression reprise par la traduction de la version seconde, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? C'est beau ça, non ? Il est tout simplement impossible à Dieu de faire autrement, car Christ est toutes choses. Cela va de pair. Ce sont les éléments constitutifs du don unique, unique de la vie éternelle et de la gloire. En nous donnant Christ, qui par sa mort expiatoire et substitutive a fait tomber la barrière du péché, Dieu nous a véritablement donné accès à tous les autres dons. Alléluia. Le plan de salut de Dieu est donc un de l'élection décidée de toute éternité à la gloire finale. Il est extrêmement important à la fois pour nous, pour notre compréhension et pour notre assurance que nous ne perdions pas de vue les liens qui relient entre elles les différentes parties et les différentes étapes de ce merveilleux plan. Celui nous amène à notre dernière remarque. Ça, c'est donc une chose importante que nous puissions comprendre maintenant la remarque suivante. Aussi arrêtons-nous, et je dirais troisièmement, à ce que saint Paul veut vraiment nous faire comprendre quant aux conséquences de notre rédemption. Je répète, saint Paul veut nous faire comprendre des choses concernant la conséquence de notre rédemption. Il dit, Dieu nous donnera toutes choses. Il nous donnera toutes choses avec Christ. Or, quelles sont ces toutes choses? Ce sont la vocation, ce sont la justification et ce sont la glorification, selon Romains 8, qui au verset 30 englobe toutes choses de la nouvelle naissance jusqu'à la résurrection du corps. Ça, c'est donc quelque chose de merveilleux à savoir. Depuis la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, quand tu t'es converti, quand tu as accepté Christ comme étant ton Sauveur et Seigneur, eh bien, il va t'aider, il va te renouveler, il va donc assurer tout jusqu'à la résurrection de ton corps. Et cela a déjà été évoqué ainsi que tout au long du chapitre, le ministère varié du Saint-Esprit, il est là. Que de richesses, que de réalités, mais d'autres passages de l'Écriture sainte, ils nous permettent d'en découvrir encore davantage. Nous pourrions, par exemple, évoquer la promesse que notre Seigneur a faite à tous ses disciples pour leur donner toutes choses dont ils avaient matériellement vraiment besoin. En plus, s'ils recherchaient premièrement, ça c'est important, premièrement le royaume de Dieu et sa justice, selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 33, une promesse que le Seigneur exprime ailleurs de façon saisissante en disant « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Mais peut-être aussi avec des persécutions, car nul est plus grand que le maître. Et dans le siècle à venir, il ou elle aura la vie éternelle. Saint Marc, chapitre 10, versets 29 et 30. Donc, nous pourrions aussi méditer sur la signification de l'expression « toute chose », tout ce qui est bon, non pas à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, dont la sagesse et la puissance infinie orientent la générosité. Mais nous cernerons mieux, beaucoup mieux la pensée de l'apôtre Paul en attribuant ses paroles, toutes choses, comme aussi le donc du premier verset, au souci pastoral qui le caractérisait et qui le poussait à prendre les devants pour réfuter les conclusions erronées auxquelles risquaient de parvenir ses lecteurs. Par exemple, au premier verset de Romains, chapitre 8, et plus loin, au verset 33, l'apôtre s'élève Il s'élève contre l'erreur qui consisterait, par exemple, à croire que les péchés commis par les chrétiens dans un moment de faiblesse remettent en cause l'accueil favorable qu'ils avaient trouvé auprès de Dieu. Saint Paul ne veut pas laisser penser que suivre Christ entraîne fatalement la perte de tous les biens précieux, sans que cette perte ne reçoive la moindre compensation, ce qui, si cette idée s'avérait exacte, ferait du christianisme la religion pure mais dure, donc une religion pure et dure, en affirmant avec assurance qu'avec Christ, Dieu le Père nous donnera aussi toutes choses. Saint Paul corrige d'avance cette erreur-là, car ce qu'il proclame, c'est la toute suffisance de Dieu, notre souverain bienfaiteur, qui n'agit jamais envers ses serviteurs de manière à faire naître en eux le sentiment ou seulement la crainte de se trouver totalement appauvri. Arrêtons-nous donc un instant sur cette idée-là. Le chrétien, tout comme Israël au Sinaï, se heurte à l'exigence exclusive du premier commandement. Dieu avait dit à Israël « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode chapitre 20, verset 2, etc. Si ce commandement, comme tout le décalogue d'ailleurs, est exprimé sous forme négative, c'est parce qu'il est en fait un appel impératif à renoncer à l'ancienne manière de vivre et à prendre un tout nouveau départ. Il est à peu près sûr que lorsqu'ils étaient en Égypte, les Israélites en étaient arrivés à considérer les conceptions polythéistes comme toutes naturelles, quel qu'ait été le degré de leur participation, hélas, au culte rendu aux dieux égyptiens. Mais, le premier commandement mis brusquement et radicalement fin à cette façon de penser et d'agir, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Examinons comment Dieu va s'y prendre pour régler avec Israël cette question de double allégeance. Il en fait une question, non pas de théologie, mais de loyauté. Oui, une question qui ne regarde pas seulement l'esprit, mais aussi le cœur. Dans d'autres passages de l'Écriture sainte, notamment dans les psaumes et dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit très clairement à son peuple qu'adorer les dieux païens est une pure folie, parce que ces dieux n'existent pas. Mais ici, Dieu n'utilise pas du tout ce genre d'argument et laisse pour le moment en suspens la question de savoir s'il existe ou non d'autres dieux. La formulation du premier commandement ne vise pas à régler un problème de théologie, mais un problème de loyauté, ce qui n'est pas la même chose. Dieu ne dit pas « Il n'existe aucun autre Dieu que tu puisses avoir en dehors de moi. Mais il dit simplement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et il fonde son exigence sur le fait qu'il est leur Dieu. Il est celui qui les a fait sortir d'Égypte. C'est comme s'il avait dit, en vous sauvant de Pharaon et de son armée, en accomplissant des signes et des prodiges, en vous faisant manger la Pâque et traverser la mer Rouge à pied sec, eh bien, je vous ai montré de quoi j'étais capable et je vous ai montré suffisamment clairement que n'importe où, n'importe quand, contre n'importe quel ennemi et dans n'importe quelle situation, aussi pénible soit-elle, j'étais capable de vous protéger, de subvenir à tous vos besoins et de vous donner tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie digne de ce nom. Vous n'avez besoin d'aucun autre Dieu que moi. Et c'est pourquoi vous ne vous laisserez pas jamais entraîné vers d'autres dieux, mais vous me servirez moi seul. En d'autres termes, ce que Dieu disait à Israël dans le premier commandement, c'était de le servir lui seul, exclusivement, non seulement parce qu'il lui devait tout, mais aussi parce que lui, Dieu, était digne de leur confiance entière et exclusive. Il devait accepter l'autorité absolue de Dieu, parce qu'ils avaient confiance, une totale confiance en sa toute suffisance. Il fallait donc, bien sûr, que ces deux choses, obéissance et confiance, aillent de pair. Il faut qu'il y ait l'obéissance et la confiance, car Israël aurait difficilement pu servir Dieu de tout son cœur, donc lui seul, à l'exception des autres dieux, s'ils avaient douté de la parfaite suffisance de son Dieu à répondre à tous ses besoins, à tous leurs besoins. Or, si vous êtes chrétien, chers amis, vous savez que Dieu notre Père, vous savez ce qu'il vous demande. À vous aussi, il vous demande la même chose. Dieu n'a pas épargné son Fils bien-aimé, mais il l'a livré pour vous. Christ vous a aimé et s'est donné lui-même pour vous sauver de l'esclavage de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage du péché, ça veut dire ça, de l'esclavage du péché et de Satan. Christ lui-même vous répète le premier commandement sous sa forme affirmative. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 37, etc. Nul ne peut se soustraire à cette exigence qui se réclame à la fois du droit de la création et de celui de la rédemption. Vous savez bien quelle vie Jésus-Christ désire vous voir mener en tant que disciple. Son propre exemple et son enseignement rapporté dans les évangiles, pour ne s'en tenir qu'à eux, nous indique très clairement la marche à suivre. Vous êtes appelé à vivre dans ce monde comme un pèlerin, un simple résident temporaire, prêt à faire conformément à l'ordre de Christ ce que le jeune et riche observateur de la loi avait refusé, renoncer à la richesse matérielle, à la sécurité, toute la sécurité que la richesse matérielle peut procurer, et cela pour vivre une vie de pauvreté et même parfois de dénuement. Puisque vous avez un trésor dans le ciel, vous n'avez pas à chercher à vous en amasser un sur la terre, ni à acquérir un haut niveau de vie, vous pourriez bien être obligé de renoncer à tout cela. Vous êtes appelé à vous charger de votre croix et à suivre Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Les seules personnes qui portaient une croix dans l'Antiquité, c'étaient les criminels condamnés qui se rendaient au lieu de leur exécution. Ils étaient forcés, comme le fut notre Seigneur bien-aimé, de porter la croix sur laquelle ils allaient être crucifiés. Ce que le Seigneur veut donc dire, il veut dire, c'est qu'il vous faut accepter de vous trouver dans la même position que ces condamnés, en ce sens qu'il vous faut renoncer à espérer quoi que ce soit de la société et apprendre à ne pas vous étonner si votre prochain vous bat, s'il vous bat froid et s'il vous considère avec mépris, avec aversion, comme si vous étiez une créature d'une autre nature que lui. Il se peut que vous vous trouviez fréquemment traité de cette façon-là, et cela si vous êtes évidemment fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Nul pourra être mieux traité que le Maître a été traité. Vous êtes aussi appelé à faire montre de douceur, à ne pas toujours faire valoir tous vos droits, à ne pas chercher fébrilement des appuis, à ne pas vous laisser troubler par les brimades et les affronts, encore que ce genre de choses ne peut manquer de blesser superficiellement tout être qui est doté d'une sensibilité normale, mais à remettre simplement toute chose à Dieu et à lui laisser le soin de vous défendre s'il le juge nécessaire, et cela au moment qui lui semblera opportun. Votre attitude à l'égard de votre prochain, qu'il soit bon ou qu'il soit méchant, qu'il soit aimable ou désagréable, qu'il soit chrétien ou incrédule, doit être celle du bon samaritain à l'égard du juif, rappelez-vous, qui était tombé sur le bord du chemin. Vos yeux doivent être ouverts aux besoins spirituels et matériels des autres chrétiens, de vos frères et sœurs en premier, et votre cœur doit être prêt à se charger des âmes en détresse qui se trouvent sur votre route. Votre esprit à rechercher activement le meilleur moyen de leur venir en aide et votre volonté à lutter contre cette tendance que nous avons tous à nous défier, à passer outre de l'autre côté du trottoir et à esquiver les situations difficiles qui exige une aide à fond perdu le plus souvent. Bien entendu, rien de tout ceci n'est nouveau pour nous. Nous savons à quelle vie Jésus-Christ nous appelle. Cela est un thème de prédication et de discussion courant parmi nous chrétiens. Nous en parlons, mais est-ce que nous le vivons? Ça, c'est d'autres choses. Regardez un peu ce qui se passe dans les églises. Avez-vous remarqué à quel point il manque souvent de pasteurs et de missionnaires, surtout à certains endroits? Avez-vous remarqué le luxe déployé dans les foyers chrétiens? Je dis pas dans tous, surtout de nos jours où c'est la récession. Mais avez-vous vu les problèmes d'argent que rencontrent les organismes chrétiens? Croyez-moi, ça va pas très fort. Avez-vous remarqué la propension qu'ont les chrétiens de tous les milieux sociaux à se plaindre de leur salaire? Avez-vous remarqué le peu d'intérêt manifesté pour les personnes âgées ou qui sont totalement solitaires, ou même pour quiconque se trouve en marge du cercle des véritables croyants? Nous sommes bien différents des chrétiens de l'époque néo-testamentaire, et contrairement à eux, notre façon de vivre est conventionnelle et statique. Le souci de la sécurité avant tout ne freinait pas toutes leurs entreprises comme ils freinent aujourd'hui les nôtres. Leur façon de vivre l'Évangile, caractérisée par une joie débordante, une réelle originalité et une grande liberté, a bouleversé le monde de leur époque. On ne saurait nous accuser, nous chrétiens, du 21e siècle, d'en faire autant. Pourquoi sommes-nous si différents? Pourquoi, à côté d'eux, faisons-nous figure de demi-chrétiens seulement? D'où nous viennent cette nervosité, cette inquiétude, cette peur de prendre des risques qui caractérisent notre christianisme d'aujourd'hui? Pourquoi ne sommes-nous pas suffisamment libérés de la peur et de l'anxiété pour pouvoir marcher sans hésiter sur les traces de Christ? Je vais vous dire des choses très très pénibles à entendre et qui me concernent aussi, car il semble que ce soit en partie parce que tout au fond de nous-mêmes, nous redoutons les conséquences d'un engagement total dans la vie chrétienne. Nous reculons à l'idée de nous charger de la responsabilité des autres parce que nous avons peur de ne pas avoir suffisamment de force pour pouvoir le faire. Nous reculons à l'idée de vivre une vie dépourvue de sécurité matérielle parce que nous avons peur de nous retrouver sur la paille. Nous reculons à l'idée de faire montre de douleur. Non, excusez-moi. De nous montrer plein de douceur. Parce que nous avons peur, tout simplement. Et si nous ne nous défendons pas d'être piétinés, d'être dominés par les autres et de devenir des victimes et des ratés de la vie, nous reculons à l'idée de rompre avec les conventions sociales pour suivre Christ parce que tout simplement nous avons peur. Nous avons peur que en le faisant, de voir s'effondrer carrément tout autour de nous. C'est ça, nous avons une peur bleue de voir que tout pourrait s'effondrer autour de nous. Et ça, évidemment, nous fait peur. Ce sont toutes ces craintes à demi conscientes, cette horreur de l'insécurité qui nous retiennent bien plus que le refus délibéré de payer le prix qu'il faut pour suivre Christ. Nous avons l'impression que les risques d'un engagement total dans la vie chrétienne sont bien trop importants pour pouvoir être pris. Donc, en d'autres termes, nous ne sommes pas persuadés que Dieu est pleinement suffisant pour pourvoir à tous les besoins de ceux qui se lancent sans hésiter en eau profonde pour obéir à l'appel de Christ et de vivre ainsi une vie hors du commun. Et c'est pour cela que nous trouvons obligés d'enfreindre le premier commandement juste un peu en retenant une partie du temps et de l'énergie que nous devrions consacrer au service de Dieu pour le consacrer. Pour qui? Pour le consacrer au service de maman à la place de le consacrer pour notre Dieu. Il semble bien que nous touchons là, il me semble, au fond du problème. Nous avons peur d'accepter totalement l'autorité de Dieu parce que nous doutons secrètement qu'il soit pleinement suffisant pour prendre soin de nous. Tout ce que je viens de dire est de prendre très au sérieux. Il est donc temps d'appeler un chat un chat. Ce petit jeu auquel nous jouons a un nom. Il a un nom. Il s'appelle l'incrédulité. Et les paroles de saint Paul sont là. Elles sont là pour nous reprocher constamment. Il vous donnera toutes choses. Ne l'oubliez jamais. Saint Paul nous dit que nous n'avons à craindre ni perte irrémédiable, ni revers de fortune irréparable, si Dieu nous refuse quelque chose. C'est uniquement, pour que nous ayons de la place pour recevoir ce qu'il envisage de nous donner à sa place. Peut-être entretenons-nous encore l'idée que la vie d'un homme se confond, du moins en partie, avec ce qu'il possède. Nous nous préparons alors bien des déboires et nous nous privons de bien des bénédictions divines. Car toutes ces choses-là, dont parle saint Paul, n'ont rien à voir avec une pléthore de biens matériels, et il faut que nous nous débarrassions de cette passion de posséder ou de vouloir posséder afin de pouvoir être enfin prêt à recevoir toute chose. Car ce que saint Paul a en vue lorsqu'il parle de toutes ces choses-là n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu et la joie qu'apporte sa présence. Il nous donnera, croyez-moi, toutes choses. Et cela peut s'interpréter ainsi. Un jour, nous nous apercevrons, vraiment, croyez-moi, que toutes choses nous seront données, et aussi le moyen de sortir de certaines de nos difficultés, afin que vous puissiez, que nous puissions supporter les choses qui nous paraissent insupportables. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Sachez, et nous terminerons pour aujourd'hui cette deuxième partie, sachez tout simplement que ma grâce te suffit, car ma puissance, elle s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Chers amis, réfléchissez à toutes ces choses et que le résultat de vos réflexions balaye tout ce qui vous empêchait de servir votre merveilleux maître. La troisième partie de cette étude se fera demain, Dieu voulant. Et nous allons donc, pour aujourd'hui, terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, roi de gloire, tu fondes ton éternel royaume qui est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Illumine nos cœurs pour nous préserver de méconnaître comme le monde incrédule et de rejeter ton Christ. Qu'avec les yeux de la foi, nous sachions saluer en lui le roi véritable et prédestiné de ton royaume. Rends-nous constants dans la fidélité et dans l'espérance pour être prêts lorsque apparaîtra ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Béni soit celui qui vient pour délivrer l'Église, pour délivrer les chrétiens et le monde. Béni soit celui qui vient dans Jérusalem pour y mourir, celui qui renonce à lui-même, qui souffre, qui meurt pour venir jusqu'à nous. Béni soit le roi humble et débonnaire, monté sur un ânon. Hosanna! Aie pitié, délivre-nous, règne en nous, libérons, sauve-nous, t'en prions. Ne nous sauve pas seulement de la condamnation, de la peur de mourir et de la peur de vivre, mais sauve-nous du péché, de l'égoïsme, sauve-nous de tout nous-mêmes, de nos péchés actifs et de nos péchés passifs, de notre faiblesse aussi bien que de nos lâchetés, de nos inerties, de notre mollesse et de nos stériles lamentations. Sauve, sauve vraiment en esprit, c'est-à-dire en vérité. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et parfois, il est vrai, si vous sentez qu'une étude est pas très facile à comprendre, pourquoi ne pas la réécouter une deuxième fois? Cela peut nous aider à grandir dans la foi. À bientôt à nouveau, à demain, Dieu voulant, la troisième partie, et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.